know you're a feminist.
It was not a compliment.
Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté.
They wanted to silence one Malala, but instead, now thousands and hundreds and millions of Malalas are speaking and they're fighting for their rights.
Il n'y a rien de pire que le viol.
On se lève et on se casse.
Bienvenue sur Charbons Ardents, votre rendez-vous du midi, tous les deuxièmes jeudis du mois. Pendant une heure, Chat et Mareuil vous parlent tous les mois des sujets qui fâchent. En partant d'un témoignage sur les violences quotidiennes, on décryptera ensemble un exemple médiatique avec à la clé des outils pour comprendre le militantisme d'aujourd'hui. Charbons Ardents, c'est sur Prune, 92 FM, et c'est maintenant.
J'ai commencé à prendre la pilule à 15 ans. Je venais à peine de commencer à avoir mes règles, mais ça me paraissait le truc adulte à faire, le truc moderne. J'ai eu mes premiers rapports sexuels autour de cet âge-là aussi. Bien rapide, peu de préliminaires, comme on appelle ça, et pénétration obligatoire avec les mecs. J'étais stressée, mais je me disais que c'était le moment de le faire. L'idée d'être précoce me plaisait, avoir de l'expérience sexuelle, ça faisait mature. Je n'étais pas étonnée d'avoir mal, ni la première fois, ni la deuxième, et ma première expérience avec une fille a été aussi stressante que les autres. L'étendue de mes connaissances concernant le sexe à cet âge-là, c'était les cours de SVT sur l'appareil reproducteur, la sensibilisation à la contraception et les films. À 15 ans, je n'avais pas de portable avec internet pour regarder si c'était normal d'avoir mal, pour lire des articles sur le plaisir féminin, le consentement ou le sexe sans pénétration. On parlait du point G et du cunnilingus comme de techniques secrètes vers l'orgasme. Les bases de ma sexualité étaient posées.
Toutes mes relations qui ont suivi se sont passées de la même manière. Au début du couple, avec les hormones en folie et le désir qui monte, on couchait ensemble souvent et ça se passait bien, même si j'avais régulièrement un peu mal. Pas assez de lubrification, des positions douloureuses. J'ai appris par la suite que j'avais un utérus rétroversé. Puis la routine s'installait et j'avais de moins en moins envie et de plus en plus mal. Je ne faisais pas l'amour pour moi, même si ça pouvait m'apporter du plaisir. Je ne me masturbais pas, j'avais essayé mais ça ne déclenchait rien et je n'avais pas envie de chercher plus loin. Lorsqu'à 21 ans, j'ai dit à ma gynécologue que j'avais mal pendant les rapports avec mon copain et que je n'avais plus de libido, elle m'a dit que c'était peut-être que je ne l'aimais pas vraiment et qu'il ne m'attirait plus. À aucun moment, elle ne m'a posé de questions pour comprendre comment ça se passait. À aucun moment, on a parlé de lubrification. À l'époque, ça faisait sens pour moi. Je n'étais plus sûre d'avoir envie d'être avec lui. Puis avec un autre copain, j'ai fini par avoir trop mal pour me forcer. La douleur était intolérable et durait. Lorsque j'ai expliqué ça à ma nouvelle gynécologue après son examen, elle m'a littéralement dit que c'était dans ma tête. La sensation de mini-couteaux dans le vagin, comme des coupures de papier. J'ai insisté pour faire des tests. Si j'avais la preuve que c'était dans ma tête, ça m'aiderait sûrement à me sentir mieux. Le laborantin, devant mes cuisses écartées, m'a dit que c'était très beau tout ça, et que ça avait l'air très sain. Et finalement, les résultats ont montré que ma flore vaginale n'en était plus une. J'avais un très gros déséquilibre de la flore.
J'ai arrêté de faire confiance au gynécologue. Je ressortais des rendez-vous avec l'impression d'avoir raté un entretien d'embauche, pas dit la bonne chose au bon moment, pas posé la bonne question. Je me retrouvais sans réponse à mes questionnements, avec mes douleurs et ma libido en yo-yo. Je ne savais plus quoi penser de mon corps et je ne savais pas quoi faire à part attendre et me forcer à avoir des rapports quand j'en avais la capacité, pour satisfaire l'autre. Différents copains et partenaires m'ont fait culpabiliser, m'ont engueulé en me disant que j'étais frigide. Je ne mouillais pas assez, donc je ne les désirais pas et ils se sentaient frustrés. On ne couchait pas assez ensemble, c'était de ma faute si notre relation se passait mal. J'avais honte et je ne me sentais pas normale. Je me couchais régulièrement à côté de mon compagnon, pétrifié par l'angoisse qu'il ait envie de coucher avec moi, et j'ai expérimenté plusieurs viols conjugaux. Le problème venait de mon corps, de ma tête, tout se mélangeait. La peur d'avoir mal et la culpabilité de ne pas satisfaire les désirs de mes partenaires avaient peu à peu bousillé ma manière de percevoir le sexe.
Après 10 ans de pilule, j'ai décidé d'arrêter de prendre des hormones et de passer au stérilet au cuivre. Le copain avec qui j'ai rompu ensuite s'y opposait et affirmait qu'il y avait un risque que le fil lui pique le bout du pénis. Je m'en fichais. J'avais commencé à déconstruire le sexe, à essayer de mieux m'écouter, mais je ne sentais toujours pas de désir qui ne me stresse pas. Je me suis demandé si je devais insister et explorer mon corps pour trouver le truc qui me plaisait, mais ça me déprimait à chaque fois que j'essayais. Je me suis demandé si j'étais asexuelle ou si je l'étais devenue. Je savais maintenant que la pénétration n'était pas une obligation, mais ça ne changeait rien. Tout ce que je percevais comme sexuel était devenu stressant. Les étreintes, les massages, les caresses, que ce soit sur les cuisses ou les épaules, j'avais fini par avoir des douleurs vaginales même sans stimulation directe. Je ne sais pas trop si c'est plus le fait d'arrêter la pilule ou le fait de l'avoir prise 10 ans qui a déclenché ça, mais toujours est-il qu'après être passée au stérilet en cuivre, j'ai commencé à bien douiller pendant mes règles et à me dire que mon problème empirait.
Ça a coïncidé avec ma première expérience en tant qu'adulte d'hospitalisation et d'opération. Une jambe bien cassée, une opération, des rendez-vous de contrôle, un début de nécrose à cause du garrot. Le chirurgien peut être très bon mais pas du tout compatissant qui me dit juste « ne vous inquiétez pas » sans vraiment répondre à mes questions. Les mêmes impressions d'entretien raté, d'inquiétude et d'incompréhension à la sortie de chaque rendez-vous de plus en plus espacés. Ma jambe s'est bien remise et je me suis dit que je surréagissais peut-être. Je ne savais pas quoi penser de mon corps et je faisais de moins en moins confiance à mes sensations. Puis il y a environ 3 ans, j'ai eu un premier diagnostic d'endométriose avec une échographie pelvienne et une IRM. La femme qui m'a annoncé la conclusion des examens était catégorique. Endométriose profonde, avec atteinte au niveau des ligaments utérosacrés et possible atteinte au niveau digestif. Je savais en gros ce qu'était l'endométriose, mais je n'avais jamais pensé en avoir. J'avais toujours eu des règles assez tranquilles, un peu mal au bide, mais plutôt la digestion difficile.
La petite diarrhée habituelle de la période de règles, mais rien qui ne m'empêche de me lever et d'aller bosser. J'ai ressenti un certain soulagement en me disant qu'il y avait peut-être enfin une explication à mes douleurs et blocages du quotidien. Ce fut de courte durée. J'ai enchaîné, mais avec des mois et des mois d'attente, des examens et des passages par des services spécialisés. Un chirurgien spécialiste de l'endométriose, à qui j'ai parlé des douleurs handicapantes pendant mes rapports sexuels, m'a dit que j'avais l'air d'avoir beaucoup trop mentalisé la douleur et que j'avais juste une vulvodynie. Il m'a sorti ça comme ça, sans paraître se dire que son diagnostic oral sans examen pouvait m'affecter. S'en sont suivis plusieurs examens, une entéro-IRM, un changement de suivi parce que ce chirurgien qui ne montrait aucune empathie ne m'avait pas plu. Un nouveau stérilet qui a arrêté mes règles et m'a soulagée, mais a rajouté une couche d'hormones. Une autre entéro-IRM, car mes précédents examens n'étaient apparemment pas lisibles, un coloscanner. Après des litres de flotte dans le ventre avec des produits dégueulasses, des injections, des produits de contraste et des diarrhées fulgurantes après chacun de ces examens douloureux, on me confirme qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau digestif. Puis, plus rien. On ne me dit rien sur le diagnostic de base. J'en viens à douter qu'il y ait eu quelque chose tout court. Je ne comprends pas pourquoi j'ai des troubles digestifs. Est-ce que j'ai vraiment de l'endométriose? Pourquoi on ne me propose rien d'autre?
J'avais le stérilet aux hormones depuis bientôt 2 ans. J'étais passée à une alimentation anti-inflammatoire, mais j'avais régulièrement des troubles intestinaux et toujours des douleurs à l'excitation les rares fois où nous tentions des choses avec mon partenaire. Après un rendez-vous de suivi avec une gynécologue, on m'a confirmé que je n'avais pas de vulvodynie et j'ai été redirigée vers une gynécologue, sexologue, spécialiste de l'endométriose et des pathologies vulvaires. Et c'est elle qui a enfin dit les mots pour me soulager. Elle m'a posé des questions, écouté, et m'a expliqué que ce que j'expérimente est parfaitement normal, considérant mon état et mon passif. C'est normal que tout soit lié. C'est normal que j'ai des troubles digestifs et c'est normal que même sans pénétration j'ai mal et que je n'ai donc pas de libido. Mes capteurs de la douleur fonctionnent tout seuls et mon corps a des réactions inflammatoires parce que toute cette zone a été conditionnée par la douleur. Maintenant, il faut la rééduquer. Après plus de 15 ans, cette spécialiste m'a enfin dit « Ce n'est pas normal d'avoir mal, on va s'occuper de vous ». Ces mots m'ont énormément soulagée, même si je sais que ça va prendre du temps. Je me sens bien accompagnée et j'ai enfin l'impression d'être sur la bonne piste.
Malgré tout, je sais maintenant que je dois préparer chaque rendez-vous médical avec précaution pour ne laisser aucune réponse incomplète, aucune question en suspens. Je sais que ça me coûte cher, car tout n'est pas remboursé par ma mutuelle. Je sais que je dois insister et demander du temps aux professionnels de santé qui n'en ont pas. Et ça me déprime de penser à toutes ces personnes qu'on peut renvoyer chez elles sans réponse, à toutes celles qu'on n'écoute pas, ou qui n'ont pas l'énergie de remettre en question les dires de professionnels convaincus et convaincants et convaincantes. Alors merci à celles qui partagent leurs expériences et contribuent à informer sur ces sujets essentiels. Merci au réseau qui se crée, de praticiens et praticiennes safe et inclusives. Et merci à celles qui soignent en étant à l'écoute et en respectant nos corps et nos émotions. We gotta burn this patriarchy down! Dans Tout feu, toute flamme, on rebondit sur des armes de vulgarisation massive, comme Mario sur un champignon.
L'arrêt du plombier en moins.
À vous les concepts pour dominer le game face aux not all men.
Ouin ouin bouhou!
Aujourd'hui, on va parler du traitement médical du corps féminin, des stéréotypes associés à l'idée d'un sexe dit faible et des maladies invisibilisées, maltraitées ou induites par un corps médical jusqu'à récemment dominé par les hommes.
Nos alliés de débat du jour seront des journalistes, Ariane Puccini et Delphine Bauer, qui ont écrit un ouvrage qui s'intitule « Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées ». On va aussi s'appuyer sur la très bonne BD d'Emma qui s'appelle « Check ta chatte » et qui propose une synthèse vraiment cool et très bien faite de références théoriques variées. Et on terminera en s'appuyant sur les historiennes Adeline Gargam et Bertrand Lançon qui ont écrit une petite histoire de la misogynie dans la partie lexico.
On va commencer par évoquer le corps féminin, ses spécificités par rapport aux hommes, et la manière dont on fait de chaque zone considérée comme féminine la source de problèmes bien relous.
En effet, chat, le corps féminin, c'est chelou. Ça pue, c'est fragile, ça se casse quand on tape dessus. Et en même temps, on passe son temps à le mettre à poil pour vendre toutes sortes de choses. Et en plus, on en redemande. Culturellement, on a appris à traiter chaque critère de singularisation du féminin par rapport au masculin de deux manières. Soit on traite ça comme un objet de désir porno, soit on traite ça comme une source de peur ou de dégoût. Dans les deux cas, les conséquences vont se jouer au niveau de la question de la maladie, parce que soit on va traiter la différence comme un trouble, soit on va invisibiliser la maladie derrière le fantasme.
Rouge, comme le feu des tziganes quand les violons s'affolent. Rouge, comme un phare de signal quand un avion s'envole. Rouge, comme les lèvres d'une femme quand l'amour la rend folle. Rouge, comme le front du menteur qui trahit sur parole.
Commençons par voir rouge en parlant du rapport qu'on entretient aux règles. Un tabou qui entraîne des non-dits, un manque total d'éducation et des situations à la Carrie. Peu ou pas d'outils spécifiques aux règles avant que le marketing et le capitalisme s'y intéressent comme source de rendement. Avant ça, les femmes bricolent et se retrouvent à avoir d'autres maladies en conséquence, mycoses notamment.
Ce tabou, il a récemment été dénoncé au niveau du marketing parce que la pub nous vendait des serviettes menstruelles à coups de liquide bleu. Donc perso, je n'ai jamais eu de règles bleues, mais j'attends. Hein. Donc rien que l'appellation serviette hygiénique, déjà, elle est problématique puisqu'elle transmet l'idée que les règles, c'est sale et c'est impur, contrairement au sang qui coule du nez d'un rugbyman. Cette croyance intégrée fait que 80% des couples, selon un sondage de 2019, ne font pas l'amour pendant les règles. Alors même qu'en fait, la pénétration, c'est un super bon moyen de déclencher les saignements et d'ainsi soulager les femmes qui souffrent de crampes très douloureuses avant le moment où les règles se déclenchent. Cette idée reçue, elle peut aller encore beaucoup plus loin puisque dans certaines cultures, on continue à pratiquer l'exclusion des femmes qui sont en cours de menstruation. Par exemple, on a la Nida, c'est une règle du Talmud qui préconise que les couples dorment séparément pendant la période des règles, où la femme est considérée comme impure. Et puis il y a aussi le Chopadi, c'est un rituel hindou qui existe encore notamment au Népal, où l'on cloître les femmes pendant leurs règles. Il faut noter que ces comportements sont un des premiers facteurs de déscolarisation des filles dans certains pays.
Phénomène considéré comme tellement tabou et honteux qu'on n'a jamais creusé la question des cycles du masculin, qui sont pourtant une réalité. Trop honteux, oulala, ce serait l'horreur pour nous les bonhommes, si on avait nos règles nous aussi. Pourtant, 26% des hommes pensent avoir des cycles mensuels qui se traduisent par des périodes d'irritabilité et d'hyperphagie.
Qu'est-ce que t'as tes règles ?
Ils ont bel et bien un cycle hormonal très visible, le cycle nyctéméral, qui se traduit par l'érection du matin et la demi-molle moins motivée du soir. Ils auront également plus de testostérone en fonction des moments de l'année. Vous n'êtes donc pas au-dessus de la nature, messieurs, désolé.
Pas désolé.
C'est les putains de règles, c'est les putains de règles. Dégage de ma chambre, salope si t'as tes règles. C'est les putains de règles, ouais, c'est les putains de règles. Écarte comme une équerre, je suis droit comme une règle.
Le clitoris, maintenant notre ami de toujours, fait lui aussi l'objet de tabous qui sont ancestraux. C'est le grand censuré de l'histoire. Alors sur ce coup-là, Hippocrate a pas trop fait son chien, puisqu'il lui reconnaît une existence et une utilité, celle du plaisir féminin. Mais on ne trouve ce plaisir féminin utile que parce qu'on pense que sans, les femmes ne pourront pas tomber enceintes. Donc c'est corrélé à la procréation. Cette croyance continue jusqu'au XVIIe siècle environ, et le clito n'est baptisé qu'en 1559 par Matteo Colombo, qui le dessine et fait son éloge « grazie mille ». Malheureusement, ces gros mansplainers des Lumières ne vont pas tarder à débarquer et à foutre le zbeul dans l'existence du clito.
Mais ouais, Mareuil, j'ai bien envie aujourd'hui de poucaver à balle, donc on va pointer du doigt un gros guignol, le docteur Tissot, qui considère que la masturbation crée des maladies et est contre-productive pour les grossesses.
Or, on a besoin des babies pour faire la guerre plus tard.
Par ailleurs, ce serait quand même con que la femme se fasse plaisir toute seule et puisse se passer du général Phallus, grand pourvoyeur de joie. Résultat, jusqu'au début du 19e siècle, c'est excision à tour de bras, notamment chez nos voisins les teutons. Vivement qu'on sorte de l'obscurantisme pour arriver au 20e siècle.
Désolée de te casser ton bel optimisme, chat, mais le 20e siècle, c'est toujours pas la fête du string. Vous l'attendiez, c'est le point Freud, la Freud zone. Que serait un historique miso sans le père de la psychanalyse ? Pour lui, le clito, c'est pour les gosses. Bon, déjà, très limite. Et si on continue à se le tripoter à l'âge adulte, on est...
des hystériques
dans le mille. Résultat, puisque le clito ne joue pas de rôle dans la reproduction, on va carrément l'effacer du dictionnaire. Bah ouais, normal. Donc quand tu vois la bagarre que c'est pour effacer ou ajouter certains mots dans le dico, je parie que même Sardou est dedans et qu'on vire le clito comme s'il existait même pas, j'ai envie de chialer.
Garde ton humidité, femme, parce qu'on n'est pas au bout de nos peines. Dans ce délire de l'orgasme féminin considéré comme une maladie, nymphomanie, hystérie, on notera aussi la dévalorisation de l'orgasme clitoridien par rapport à celui dit vaginal. Beaucoup d'hommes se font un devoir viril, un défi, une compétition de mâle, d'être celui qui vous fera jouir de l'intérieur. Comme si c'était nul, secondaire et inférieur de jouir de manière clitoridienne.
Et nous, si on a envie d'être celle qui vous donnera un orgasme du point P, on fait comment ? Vous allez sans doute pas nous laisser vous triturer l'anus, vous enfoncer des trucs dedans à la recherche du point sacré, pas vraiment. On va pas là-dedans du tout, c'est zone interdite, zone interdite.
Et c'est bien dommage pour vous.
C'est clair.
C'est d'autant plus débile d'ériger l'orgasme vaginal en Saint Graal que l'orgasme vaginal est... Je le fais très mal. Clitoridien !
Eh ouais !
Le clitoris est énorme et c'est par stimulation de ses parties internes qu'on obtient l'orgasme dit vaginal. Alors oui, le vagin a bien des parties érogènes et est source de plaisir, mais parler de femme clitoridienne et de femme vaginale, ça n'a pas de sens.
Alors soit on l'invisibilise totalement en le censurant, soit on en fait la source de maladies psychanalytiques au choix. Notons que pour la psychanalyse, notre appareil génital est de toute façon un vide, un moins, un manque. On va parler beaucoup d'angoisse de la castration pour les hommes et d'obsession du phallus pour les filles. Alors qu'en fait, la castration masculine reste un fait rare, contrairement à l'excision, malheureusement encore trop répandue. On se demande pourquoi eux angoissent qu'on leur coupe le sgeg, puisque c'est nous qui vivons dans un monde où certaines d'entre nous risquons véritablement de se faire amputer.
I'm bored of your fumbling hands, it's not hard. This is an uncharted land. From my clitoris, you are so goddamn far. Why is my orgasm censored on the TV? Once this boy's good to ejaculate freely, I've got double the nerve endings in your pee-pee. If you do your fucking research, this would be so easy. Please just please me. Cisgender, heterosexual man.
Continuons notre exploration des zones corporelles associées au féminin par le culte des seins, qui font quant à eux l'objet d'une forte érotisation.
Alors que bon, jamais il nous viendrait à l'esprit de demander à un mec une photo de téton pour nous branler dessus.
C'est quoi le problème de fantasmer sur une paire de loches ?
Bah y en a pas, hein.
Ce culte a invisibilisé pendant longtemps le cancer du sein, poussant certaines femmes à refuser les mastectomies à l'époque où les reconstructions mammaires n'existaient pas encore.
Par ailleurs, ce diktat des gros seins, qui vient de cette érotisation, entraîne un recours aux implants qui a des conséquences sur la santé. On peut citer l'emblématique Michel Visage, qui est au centre d'un documentaire qui s'appelle Explant sur sa réduction d'implants, qui a été rendue nécessaire à cause des risques pour sa santé et notamment pour son système immunitaire, parce qu'elle avait quand même des bons gros seins, quoi. À l'inverse, la société montre globalement une grosse incompréhension vis-à-vis des femmes qui demandent des réductions mammaires du fait des problèmes de dos et autres maladies que les seins entraînent. Pour ma part, j'ai eu le déplaisir et le déshonneur d'assister à une fête d'adieu au gros sein d'une fille qui était très heureuse de cette réduction et donc très gênée du cirque que faisaient ses potes mecs qui avaient carrément rédigé des bannières à la gloire de ses seins et se répandaient en démonstration de tristesse de les voir partir.
C'est l'hymen.
Venons-en maintenant à l'hymen, car oui, les cérémonies de la rupture d'hymen existent toujours aujourd'hui. On a longtemps érigé la virginité des femmes en vertu suprême.
Ça continue d'ailleurs aujourd'hui dans bien des milieux.
L'hymen était le sacro-saint sceau permettant de garantir la pureté de la femme. C'est d'autant plus problématique que l'hymen peut se rompre pour de multiples raisons, mettant alors les femmes dans des situations très problématiques.
Effectivement, et puis de leur côté, bien sûr, les hommes, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent avant le mariage, qui crée une nouvelle asymétrie porteuse d'inégalités. Les cérémonies de rupture de l'hymen, ça a existé dans de nombreuses cultures, y compris la nôtre, bien sûr. D'ailleurs, on peut en voir une représentation vraiment intéressante et bien faite dans La princesse de Montpensier de Tavernier, où en fait, toute la famille entoure un lit caché par des rideaux, pendant que les pères jouent aux échecs, hein, bien sûr. Et quand les jeunes mariés ont fini leur affaire dans le baldaquin, on sort le drap, on l'affiche à la fenêtre, il y a bel et bien des taches de sang.
Ça, c'est pour les nobles. Aujourd'hui, beaucoup de femmes subissent toujours ce diktat, avec des conséquences qui peuvent aller très loin. C'est le cas notamment de la communauté rome espagnole, où les familles se ruinent parfois en hyménoplastie pour s'assurer que leurs filles pourront se marier.
Mais parce que si elles l'ont plus, le mariage est nul et non avenu.
Mauvais œil. Évite la rapace.
ça te met trop vite en colère. Tu faisais déjà ta salope au collège. Je sais que tu te fais soulever par un de tes collègues. T'as tes règles pétasses ou t'es juste bipolaire.
La vulve est globalement invisibilisée elle aussi au quotidien, notamment sur nos murs où pullulent les phallus. On reçoit des dick pics et puis on nous demande en échange des boobs ou des ass pics. Des ass pics, bon, c'est particulier en français, mais voilà. Comme si la chatte, c'était dégueulasse, quoi. On nous demande pas la réciprocité. Comme si c'était pas beau, pas érotique ou pas sexy.
D'où les réactions de certains hommes. C'est pas dégueu de leur sucer la bite, mais la tarte au poil, non merci.
Alors on comprend mieux pourquoi on est nombreuses à jamais l'avoir regardée dans un miroir. En fait, c'est comme si on avait une région corporelle qui est terra incognita. Donc on mesure là le degré de haine de soi, de méconnaissance qu'induisent les phénomènes d'invisibilisation des parties de nos corps. Donc ce soir, hop hop hop, tout le monde qui en a une se mate la chatte dans un miroir et que ça saute. Hein. Les pornos, ils sont très symptomatiques de cette invisibilisation puisqu'on y voit un culte uniquement à la vulve rasée, nue, enfantine de petite fille. Notons d'ailleurs que la manière de désigner la vulve est très souvent infantilisante, hein, foufoune, chatte. Donc pas besoin de faire un schéma, tout ça, c'est gravement problématique.
Considérée comme laide ou sale, invisibilisée et désignée par des termes erronés comme le vagin avec lequel elle est souvent confondue, voire infantilisée comme tu le disais, Mareuil, la vulve subit pleinement les dictats de la haine des poils et du jeunisme. Sur le plan de la toison, en plus d'être extrêmement douloureuse, coûteuse et chronophage, l'épilation est en plus très dangereuse, car la toison pubienne représente une barrière microbienne vitale qui permet le bon fonctionnement de cette merveille qu'est le vagin, un outil ultra bien pensé, mais qui est fragilisé dans sa flore si on le prive de ses petits poilus de protection.
Me parle pas noache, me parle pas pakistanais. Ça se rase pas la chatte, moi je la marie jamais. Faut que je pète pas un câble, faut que j'ai ma Marie-Jeanne. Je me pète pas la voix, mais y'a le mic qui crame, le mic qui crame.
Courbet, avec son origine du monde bien poilu mais évidemment censuré, et Baudelaire, avec son poème La chevelure qui parle en fait de fouf, l'avait bien compris, vive les poils. Sur le plan du jeunisme, lifting vaginal, crème de rajeunissement, vaginoplastie se multiplient aujourd'hui pour toujours plus de dépenses et de ridicules. Dernièrement, une influenceuse dont nous ne citerons pas le nom et qui n'a que 24 piges, hein, s'est récemment vantée s'être fait rajeunir la vulve et d'avoir obtenu qu'elle ressemble maintenant à celle d'une gamine de 12 ans. Donc c'est absolument parfait pour attirer les pédos. Faudra pas s'étonner après qu'on devienne toute frigide.
Oui, et merci d'ailleurs pour la transition, ça me permet de parler d'une de ces fameuses maladies de femmes, et vous entendez bien les air quotes, qui est la frigidité donc, épouvantail qui pèse sur la sexualité féminine, autant que l'étoile de mer. Or, la frigidité doit être traitée comme une maladie à part entière, pas comme un choix de meuf qui veut pas baiser, ou comme une honte source de bonnes blagues. Alors déjà pour commencer, la frigidité, c'est pas une meuf qui frustre vos désirs en ne voulant pas baiser, c'est un trouble du désir sexuel qui entraîne une baisse de libido, de plaisir pendant les rapports,
ce qu'on appelle l'anaphrodisie,
et ou l'absence d'orgasme,
qu'on appelle l'anorgasmie.
Ça peut même aller jusqu'à une absence totale de sensations pendant les rapports.
Donc concrètement, quand vous traitez une meuf de frigide parce qu'elle ne veut pas de vous, c'est comme si nous on se mettait à vous traiter d'impuissante dès que vous ne vous jetez pas sur nous, vous êtes trop fatigué. C'est se servir en fait d'un trouble réel et douloureux pour se foutre de nos gueules, et pour nous forcer à avoir des rapports. Donc pas top en fait. Soulignons que la frigidité, ça peut être physiologique, mais ça peut aussi être psychologique. Et alors dans ces cas-là, elle est souvent post-traumatique, c'est-à-dire qu'elle s'explique par des comportements masculins traumatisants, type viol, viol conjugaux, viol incestuel, miol, agression ou mauvaises expériences sexuelles diverses et variées. Elle peut également s'expliquer par d'autres traumatismes, accouchement difficile, dépression postpartum, baby blues, etc.
Ce qui nous amène au dernier point de ce catalogue du corps féminin censuré, la grossesse.
Une épopée.
Là-dessus, comme sur tous les autres points évoqués, pas d'éducation ni de vulgarisation des aléas qui vont avec la grossesse. Beaucoup de femmes les découvrent, sans parler des hommes de leur entourage. On n'en parle pas, c'est tabou, parce qu'on idéalise l'acte de « donner la vie ». Et que ça génère, du coup, une forte peur d'être une mauvaise mère. Baby blues, dépression postpartum, psychose puerpérale sont autant de troubles qui nous attendent au tournant, de même que de ne pas ressentir un amour automatique pour le lardon violet qu'on vous colle entre les bras après 9 mois de grossesse et plusieurs heures d'accouchement. On pourrait aussi parler ici du phénomène de trouble psychique qu'est le déni de grossesse, où l'on voit bien aussi l'importance de la psyché sur le corps.
Les parents sous pression, elle a cassé sa puce, et là ils font la liaison, eux. Ses parents paniquent, là c'est grave. Petite princesse est partie sous ses bras. On connaît la vie et ses drames. Une soirée arrosée, la go va maintenant t'es enceinte. Mais non, on t'avait dit, mais non. Où est ton homme? Il t'a laissé, où est ton homme? Ah, ah, bazar de, ah, les problèmes ne vont pas tarder. Tout est gagé, je laisse le futur s'en charger.
Alors comme le risque de grossesse, en fait, il tombe exclusivement sur la femme, c'est aussi à elle qu'incombe la responsabilité et la charge mentale de prendre la pilule contraceptive. Alors celle-ci, elle a été inventée en 1956 pour les femmes, et les recherches ne commenceront qu'en 1979 pour les hommes. Notons donc que ça fait plus de 40 ans que les recherches ont commencé, mais la pilule masculine, elle est toujours pas démocratisée, c'est même pas un concept en fait. Les hommes sont souvent ignorants sur la question ou réticents dans leur grande majorité à la prendre. Et quand on fait des recherches sur le terme pilule contraceptive, en fait quand on parle de pilule globalement, on ne tombe que sur des résultats qui concernent la pilule contraceptive féminine. Alors la pilule, c'est une grosse charge mentale. On connaît d'ailleurs les reproches des hommes s'il y a grossesse non voulue.
Quoi ? Mais tu prends pas la pilule ?
Bah ouais, donc du coup ça devient notre faute. Et cette charge mentale va donner droit au cliché de la femme qui tombe enceinte pour retenir l'homme.
Merci les gars.
En fait, la pilule constitue, par-dessus le marché, par-dessus cette charge mentale, par-dessus cette charge financière, un risque pour la santé des femmes dans une certaine mesure.
Et si elle est source de grande libération féminine, elle n'en reste pas moins un médicament chimique qui peut provoquer du cholestérol, une prise de poids.
Reproché ensuite par les conjoints d'ailleurs.
Des risques cardiaques, notamment pour les fumeuses, qu'on culpabilise alors, pas le droit de fumer quand tu prends la pilule, pas le droit de fumer quand tu es enceinte. Les hommes font, eux, ce qu'ils veulent tout du long. Hein. Une fois de plus, pas de partage des tâches. La grossesse ou son risque entraîne donc tout un système d'injonctions et de dangers qui ne pèse que sur les femmes. Elle est source de dépossession du corps, les gens veulent toucher les ventres ronds, font des remarques ouvertement sur le poids que tu prends ou que tu ne prends pas, ou que tu perds ou que tu ne perds pas après l'accouchement.
Injonctions d'ailleurs qui sont assez visibles sur le régime, tu manges pour deux donc faut bien manger, on te regarde de travers si tu le fais pas quand t'es en public, faut évidemment s'interrompre sur l'alcool et la clope, sinon bah gros regard désapprobateur sur les femmes qui s'autorisent un verre ou une clope par-ci par-là ou en fin de grossesse pendant que ça dérange personne que monsieur clope à côté. Donc oui, c'est bien de travailler évidemment à la bonne santé de bébé, mais on notera encore et toujours que la charge repose sur les épaules des femmes, sur leur corps, sur le corps de la femme.
Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile. Je n'en connais que de fragile. Et oui, difficile.
On va finir ce panorama sur un moment clé de la vie des femmes, un moment qui va enfin nous libérer d'une partie de tout ce zbeul, grossesse, poils, jeunesse de la chatte, mais nous apporter bien d'autres problèmes en contrepartie, j'ai nommé la ménopause. Satiriser, moquer, le traitement de la ménopause est symptomatique d'une société jeuniste et miso, sans surprise. D'elle, on ne retient que ses effets visibles ou qui ont des conséquences sur les conjoints. Bouffée de chaleur, prise de poids, sécheresse vaginale et perte de libido. C'est pourtant source de bien d'autres troubles et souffrances dont on ne parle que très peu, au point d'ailleurs d'empêcher leur reconnaissance.
Et oui, ça va bloquer les diagnostics. À noter que la ménopause se prépare par des comportements et des traitements préventifs, mais que à force d'invisibiliser encore et toujours ces questions sous de la censure ou de la moquerie, en fait on ne met pas en place l'éducation nécessaire, on ne met pas en place la prévention, et il y a très peu de recherches sur le sujet. Alors pour nous vendre de la crème anti-ride pour chatte, il y a du monde, mais pour nous aider à limiter les effets de l'ostéoporose par exemple, là, il n'y a plus personne.
L'alcool bras ne fait plus rien. La bière ne fait plus effet. Son vagin ne fait plus rien. Son derrière ne fait plus effet. Oh, je suis triste. Je ressens plus grand chose quand tu me suces la bite. Oh, je suis triste. Je ressens plus grand chose même quand je gicle. Je vais te faire chialer. Toutes les larmes de ton corps m'appartiennent désormais.
Alors si on a pris le temps de vous faire un point extensif sur les manières dont on dit « ta gueule » au corps féminin...
Pour changer.
C'est parce que quand on comprend comment on l'a mis comme ça aux oubliettes, cachées, oblitérées, déformées, on comprend mieux aussi la maltraitance qu'il va subir au niveau médical et dont on va parler maintenant. Et par maltraitance, on veut autant parler de torture que de mauvais traitement.
Mauvais traitement, c'est d'ailleurs le livre résultant de l'enquête d'Ariane Puccini et Delphine Bauer sur lequel on se base aujourd'hui. Les deux journalistes sont partis du constat que les femmes réagissent plus aux effets secondaires des médicaments, et à partir de cette info qui les a grave choquées, et on les comprend, elles ont remonté le fil de tout ce qui n'allait pas de manière systémique dans notre parcours de soins actuel, qui est miso comme tout le reste.
Aux surprises! Pour rappel, ces effets secondaires ont été mis au jour par de multiples scandales pharmaceutiques de ces dernières années. Alors on peut rappeler ici l'affaire du Mediator qui a éclaté en 2010, Mediator qui n'est pourtant interdit à la vente que depuis 4 ans. Alors c'est un médicament qui est accusé d'avoir causé la mort de 1500 à 2100 personnes, donc rien que ça. En fait, il entraîne des problèmes de valvulopathie, donc c'est des problèmes cardiaques, vasculaires, dont certaines personnes souffrent encore aujourd'hui, dans le cas de celles dont ça n'a pas causé la mort en fait. Il faut noter que 90% des victimes de cette affaire sont des femmes, un chiffre qui est quand même écrasant, ce qui n'empêche pas qu'un des chefs d'accusation au procès soit la mise en danger de la vie de l'homme et l'autre, homicide involontaire. Voilà, donc toujours plus d'invisibilisation, parce que là on est plutôt dans le féminicide. À noter qu'une des raisons de prescrire ce médicament était de le faire utiliser en guise de coupe-faim. Alors voilà, les diktats tuent, mais de multiples manières. On les retrouve au cœur d'un autre scandale médicamenteux dans lequel les femmes sont aussi les plus touchées, celui de l'androcur qui a été prescrit par certains médecins comme contraceptif pour lutter contre l'acné et pour lutter contre l'hyperpilosité, mais également comme traitement hormonal pour les femmes trans jusqu'à récemment. Donc on voit là une collection de diktats qui ont poussé à le prescrire. Donc c'est des raisons quand même bien légères quand on voit les effets secondaires atroces dont on va parler.
Oui, car ce n'est qu'en 2017 que le problème est révélé au grand public. Pour les femmes, l'androcur multiplie par 7, voire 20, si le médicament est pris sur 5 ans, le risque de méningiome, de tumeur de méninge, tumeur intracrânienne. Pourtant, cet effet secondaire est connu et inscrit sur la notice depuis 2011. Mais on sait bien ce qu'on fait des notices quand on croit aveuglément les lobbies pharma et le médecin qui vous a prescrit un médoc. Impossible à chiffrer pour le moment, les victimes se montent déjà à 500 personnes. Alors, pourquoi les effets secondaires tuent-ils les femmes et pourquoi ne sommes-nous pas sensibilisés à cette question ?
Si tu cherches un amant, si tu veux un mec marrant, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur.
Puccini et Bauer expliquent que seulement un tiers des effectifs d'essais pharmaceutiques sont des femmes. Là où, en fait, il faudrait de la parité, donc il faudrait qu'elles soient représentées à 50%. Bah oui, parce que les hommes et les femmes, en fait, ils n'ont pas le même métabolisme, donc logiquement, elles n'assimilent pas de la même manière les médocs. Du coup, les signaux qui montreraient le danger des médicaments pour les femmes ne sont pas suffisamment repérés, puisqu'elles ne sont pas présentes à 50%. Malheureusement, ce serait trop simple si le problème venait d'une seule source. Hein ? Il va aussi venir se nicher un peu partout. Donc, grand 1. Les médicaments, on ne les teste pas suffisamment sur les femmes, c'est ce qu'on vient de dire. Grand 2, il se trouve aussi que, d'après les chiffres de la Sécu, les médecins prescrivent les médicaments jugés dangereux à plus de 60% à des femmes. Alors même qu'elles ne sont statistiquement pas plus malades que les hommes. Alors pourquoi ?
Et ben là, on entre de plein fouet dans les mécanismes mortifères qui vont avec le cliché du sexe faible. Parce que la femme est fragile, parce qu'elle est vulnérable, on ne prend pas sa douleur au sérieux.
Toujours à se plaindre, ces bonnes femmes.
Pensons aux règles, qui n'ont toujours pas droit à leur congé maladie en France. Peu d'hommes parviendraient à supporter une telle douleur pourtant. Il y a même des expériences qui ont été menées avec des appareils simulant les contractions utérines sur des cobayes masculins.
Qui ont été ravis du voyage.
Autant que nous. Du coup, on ne traite pas la cause de la douleur, on ne traite que le symptôme. Et on bourre les femmes d'antidouleurs tout en leur disant que l'origine de leurs maux est très probablement psychologique. Grosse psychologisation de la douleur des femmes qui les conduit à se voir prescrire plus d'opioïdes que les hommes. Bah oui, parce que quand on vous envoie chez le psy au lieu d'essayer de chercher ce qui ne va pas, vous continuez à souffrir, donc faut bien pallier ça. Résultat, les médicaments dangereux entraînent des effets secondaires qui entraînent des féminicides dans l'indifférence générale.
On dit homicide, chat, s'il te plaît. C'est comme les droits de l'homme et de tout temps les hommes. Au-delà de l'invisibilisation et du déni de la souffrance, les femmes sont poussées à consommer des médicaments pour toutes sortes de raisons qu'on vient de citer. Médicaments qui leur sont prescrits pour la contraception, le rajeunissement, amaigrissement, baisse de la pilosité, dérèglement hormonal mal préparé de la ménopause, endométriose non diagnostiquée, j'en passe et des meilleurs. Donc dans tous ces cas, on va vous prescrire des médicaments dangereux ou des médicaments tout court, mais voilà, ça reste des trucs chimiques. Alors c'est notamment le cas des cystites. On vous bourre d'antibiotiques qui détruisent votre flore vaginale et intestinale. Il faut ensuite les reconstruire à coup de probiotiques qui ne sont pas remboursés et qui sont très onéreux. Le tout fait que l'antibiotique va souvent faire muter une bactérie qui diffère selon les cas, qui peut très bien résister aux médicaments et vis-à-vis de laquelle en fait on fait rarement les examens nécessaires pour la repérer et on ne prescrit jamais ces examens-là sur les hommes qui sont souvent porteurs de ces bactéries-là. On se contente d'aller chercher chez les femmes. Alors en même temps, beaucoup d'urologues sont des mecs. C'est très difficile d'obtenir d'avoir un rendez-vous avec eux, les médecins. Il faut les supplier pour avoir le droit d'aller voir un urologue. Et quand on va chez l'urologue, ils sont spécialisés, roulement de tambour, dans la prostate. Donc il est quasiment impossible en France de trouver un spécialiste de la cystite. Il n'y en a que un ou deux. Alors même que c'est en fait une affection handicapante chronique et qui touche la grande majorité des femmes.
Tout ça est bien évidemment systémique comme d'hab. Si ces phénomènes sont invisibilisés, si les prescriptions se font complices des diktats qui pèsent sur le corps féminin, si les tests pharmaceutiques ne pratiquent pas la parité au vu et au su de tous, c'est aussi parce que le corps médical a longtemps été dominé par les hommes. Les femmes ont été exclues des facs de médecine pendant des siècles. Le changement est récent, mais si elles sont désormais majoritaires à l'ordre des médecins, tous les postes prestigieux dans la recherche restent aux mains baladeuses des hommes. Or, ceci ne pense pas à des questionnements qui nous paraissent à nous évidents, comme les effets de l'exposition des femmes enceintes aux médicaments étudiés seulement depuis une petite vingtaine d'années.
Oui, parce que pour les médecins hommes, les femmes enceintes ne prennent pas de médicaments. Voilà. Mais ben, nous, on sait que si, en fait. L'autre problème de cette misogynie systémique du corps soignant, c'est la question des violences obstétricales et médicales subies par beaucoup de femmes. On peut évoquer ici le scandale des violences obstétricales qui a commencé à agiter la communauté vers 2016. Il faudra attendre 2018 pour que Guignol Schiappa commande un rapport sur la question. Ovidie a réalisé un super documentaire là-dessus qui s'appelle « Tu enfanteras dans la douleur ». Alors, les violences qui sont infligées au corps féminin pendant l'accouchement, elles sont scandaleuses, elles vont très loin. Le déni de consentement est prégnant. On va jusqu'à des vaginoplasties décidées par le conjoint pendant que la nouvelle maman est inconsciente. Sans parler de la grossesse elle-même, nombreuses sont les femmes qui ont eu affaire à des comportements déplacés de la part des médecins, en particulier pendant les consultations gynécologiques où l'on persiste en France à examiner les femmes dans des postures humiliantes qui sont inconfortables alors que d'autres alternatives sont possibles.
Ouais, ça, le point du mari et l'épisiotomie faite sans consentement, c'est vraiment aberrant qu'en 2022, ça se passe encore chez nous en France et ailleurs.
Cadeau de grossesse.
Yo madame, je me présente, je suis l'agent Fabrice. Et voici l'agent Smith
de la brigade du fils.
Et nous sommes actuellement à la recherche d'une liste d'objets disparus et nous avons des pistes,
ainsi qu'un mandat de perquise qui autorise une fouille précise de votre orifice.
Please, yo, please, yo.
Ouvrez vos cuisses que l'agent Smith s'y glisse à la recherche d'indices.
Soyez pas si timide, je mets partie multijoueur. Je suis humide, il y a plein de preuves à l'intérieur.
Elle a un vagin élastique, fantastique, vraiment très pratique. Elle a un vagin.
Face à ces dénis, ces humiliations, ces invisibilisations, les femmes se tournent souvent vers des médecines alternatives, acupuncture, ostéopathie, confirmant le cliché qu'elles ne sont pas rationnelles. Le serpent se mord la queue. Les maladies de femmes, les plaintes du sexe faible ne sont tellement pas prises au sérieux, tellement moquées ou ignorées, qu'il faut une lutte longue et âpre pour les faire reconnaître et éventuellement un jour soigner. L'exemple de l'endométriose est criant, cette maladie qui touche 10% des femmes ne fait parler d'elle que depuis quelques années, malgré sa découverte en 1860. Oui, 1860. Le problème est tel, pour se faire diagnostiquer, qu'une mission d'élaboration de la stratégie nationale contre l'endométriose a été lancée en mars 2021.
Donc il aura fallu attendre qu'un seul siècle et demi après sa découverte pour lancer une réflexion, pour trouver une stratégie, pour diagnostiquer une maladie. Encore deux siècles et on pourra peut-être, je dis bien peut-être, la soigner correctement.
Je crache dans tes règles, ça fait ketchup mayo, je te baisse sur un tas de boîtes, attrape une syphilis de derrière les fagots.
Aujourd'hui en mythe du jour, on va parler de la césarienne en mythe. Alors on commence par le pire des trois mythes, celui d'Asclépios, qui est le fils de ce salopard d'Apollon et d'une mortelle qui s'appelle Coronis. Enceinte d'Apollon, elle le trompe avec un autre cum, ça arrive, hein. Mais Apollon l'apprend, et comme il est partisan de la charge mentale, il envoie Artémis faire le sale boulot à sa place et buter Coronis. Alors quand on sait le niveau de fidélité et la tonne d'adultère dont se rendent coupables les dieux de l'Olympe, ça fait quand même vachement grincer des dents de voir la punition des femmes quand elles ont l'affront d'aller voir ailleurs. Mais comme c'est quand même sa brioche qui est au four, Apollon sauve le bébé in extremis du corps de sa mère en train de brûler, ambiance. C'est le mythe d'origine de la césarienne. Alors après, on a la variation numéro 1, c'est Dionysos, c'est le plus stylé ou le moins pire des dieux, le moins violeur, le plus gros buveur, celui qui refuse de vivre avec la ligue du l'Olympe et qui crèche avec une bande de mortels, adorant faire la grosse teuf, les bacchantes.
Dionysos est le seul dieu à avoir une mère mortelle. Elle s'appelle Sémélée, elle est enceinte de Zeus, le roi des violeurs. Victime de la jalousie et d'une stratégie bien fourbe d'Héra, elle meurt foudroyée lorsqu'elle demande au king de l'Olympe de se révéler à elle dans toute sa splendeur divine. De son cadavre encore chaud, Zeus extrait le bébé à naître et le met dans une couveuse bien particulière, sa propre cuisse. On notera que, comme dans le mythe précédent, il y a adultère. Cette fois, c'est l'homme qui s'en rend coupable, mais c'est encore la femme qui paye. Pensez-y la prochaine fois que vous en voudrez à la maîtresse plutôt qu'au conjoint.
Pour la variation numéro 2, on va parler d'Athéna et du stéréotype des enfants nés d'aucune femme. Ça, c'est entre guillemets. Zeus s'unit cette fois à une océanide. En gros, c'est une nymphe de l'eau qui s'appelle Métis. Alors la meuf, c'est pas n'importe qui, puisqu'elle incarne la sagesse, la ruse et la stratégie. Et c'est sur ses conseils avisés que Zeus parvient à sauver ses propres frères et sœurs. On n'entre pas dans les détails ici, mais on reconnaîtra que c'est pas rien comme coup de main. Métis, c'est la première épouse de Zeus, mais on va voir que tout ça, ça compte pas beaucoup aux yeux de ce crevard.
En effet, lorsque Métis tombe enceinte, Gaïa, ou Uranos selon les versions, prédit à Zeus que le fils à naître lui volera son trône. Bon, là on se dit, allez mec, après tout, les jeunes sont là pour prendre le relais. Ben non, pas pour Zeus qui décide de contrer le destin et d'avaler Métis. Sympa.
C'est d'autant plus con que Métis est en fait enceinte d'une fille, donc super la prophétie. Quelques mois plus tard, Zeus a mal à la tête. Il demande alors à Héphaïstos non pas un doliprane, mais un bon gros coup de hache sur le crâne, tout en subtilité les dieux de l'Olympe. De cette étrange césarienne bizarre naît Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, qui surgit toute casquée avec lance et bouclier. Toute sa vie, elle se déclarera fille de Zeus uniquement en disant « Je n'ai pas eu de mère pour me donner la vie ». Sympa pour Métis, hein, totalement viré de sa propre histoire, bouffé pour rien après avoir permis la libération des dieux de l'Olympe.
On en parle pour la césarienne parce qu'il se trouve que celle-ci est très mal vue pendant des siècles, considérée comme un sous-accouchement, et donne lieu à de nombreux mythes de héros nés d'aucune femme et dont on découvre qu'ils sont en fait nés par césarienne. Athéna est bien représentative de ça. Dionysos, lui, préfère son côté mortel, mais il accède pourtant à l'Olympe et au statut de dieu, justement parce que, né par césarienne, on considère qu'il n'est pas né de sa propre mère. Action !
Culturez-vous, qu'il disait. Ouais, sauf que la plupart du temps, l'art, c'est de la propagande. Alors prenez vos marteaux, on va taper dans l'art. Chaque mois, Charbons Ardents vous propose de déconstruire un objet culturel problématique.
Aujourd'hui, on a choisi de parler de la représentation du corps féminin dans les films d'horreur. Ça va du vagina dentata aux grossesses de l'angoisse, en passant par les règles. Comme d'habitude, dans ce domaine comme dans les autres, les films et séries ne sont pas tendres avec le corps féminin, montré comme effrayant, diabolique, voire répugnant.
Dreams I have.
You witches!
God is dead!
Satan
lives!
You're lying! You're lying!
This is no dream, this is really happening!
On commence par parler de la peur du corps féminin, ressort récurrent notamment dans les films d'épouvante, d'angoisse, d'horreur et les slashers. Alors dans ce domaine, on trouve des représentations de la grossesse et du vagin qui sont déformées et qui sont effrayantes, avec notamment une fascination morbide pour les dénis de grossesse et autres bébés dans le congélo. Alors plutôt que d'essayer d'éveiller les consciences ou de montrer la souffrance qu'il y a derrière ce genre de phénomène tragique, les films les montrent comme source de terreur et rendent ainsi le sujet encore plus tabou et l'expression des femmes qui en souffrent encore plus impossible, encore plus censurée.
On peut penser à des films comme Rosemary's Baby de Polanski,
notre pote,
où le ventre rond de Mia Farrow abrite l'enfant poilu et cornu du diable. Plus évident, Baby Blues, un film de 2008, s'inspire de faits réels, l'assassinat par Andrea Yates de ses 5 enfants alors qu'elle souffrait de sévères dépressions postpartum et d'une psychose puerpérale. Au lieu de s'intéresser au calvaire de cette femme qui a perdu tous ses enfants du fait d'une maladie méconnue et rarement traitée correctement, le film diabolise la femme atteinte de psychose et en fait un monstre de slasher.
Alors la peur du vagin, ça se retrouve aussi dans de nombreux nanars dont on vous recommande d'aller voir quelques extraits pour vous fendre la poire. C'est le cas par exemple du magistral Female Ninja Magic Chronicles en 93 où des femmes ninjas combattent leurs adversaires à coups de bulles qui jaillissent de leur vagin pour absorber les hommes par de l'acide ou pour les enfermer et les faire régresser au stade de bébé vagissant, ce qu'ils sont de toute façon à l'intérieur de base. Cette peur culmine avec le cliché du vagina dentata.
Bon, des questions? Donc, on en a fini avec le pénis et nous pouvons passer à la page suivante. Les parties génitales de la femme.
Il y a un truc bizarre dans mon bouquin.
Laissez-le.
Dans le mien aussi. C'est un autocollant. Ça cache quoi?
Le conseil d'administration de l'école a demandé à juste titre que ce schéma soit dissimulé. Il s'agit d'un diagramme précis de la...
La vulve.
N'importe quoi. Pourquoi ils recouvrent ça?
Ça paraît évident.
Le croquis du pénis, ils l'ont pas caché.
Mais c'est différent.
En quoi c'est différent?
Dommage pour toi, Ryan. Il est probable que tu le sauras jamais.
Oui.
Je crois que je sais pourquoi c'est différent. Les filles sont naturellement modestes, ça fait partie d'elles, c'est leur nature, alors exposer comme ça dans un livre...
C'est vrai!
Objet de nombreux folklores, le vagin à dents est emblématique de la peur des hommes pour notre appareil génital, qui les obsède autant qu'il les dégoûte. Deux exemples cinématographiquement pourris, Sexual Parasite Kill a Pussy, de 2004, rien que le titre, ça donne envie.
C'est clair.
Et le plus connu, Teeth, de 2007, qui raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui joue un rôle important dans le groupe d'abstinence de son lycée. Le vagina dentata apparaît ici comme une revanche contre les hommes agresseurs sexuels, mais aussi une allégorie de la découverte difficile de son corps à la puberté.
Effectivement, dans ce film, le vagina dentata lui permet de lutter contre des agresseurs sexuels, donc nous, en soi, on n'est évidemment pas contre l'empouvoirment des vagins et l'idée que les meufs montrent les dents en représailles. Pourquoi pas le plan du chien qui mange une tub avec un piercing, ça, why not? La vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi ce sont toujours des réalisateurs masculins qui vont faire ce genre d'horreur comédie et pourquoi, alors qu'elle fait bien plus de mal, la bite n'a pas, elle aussi, sa représentation monstrueuse.
Et à côté de ça, les maladies comme l'endométriose n'ont toujours pas voix au chapitre des représentations sur petit et grand écran. Espérons que le fait que les institutions s'intéressent depuis peu au sujet fasse un peu bouger les lignes. Si on sort maintenant des films d'horreur, on peut noter qu'ailleurs, les maladies mentales féminines sont rarement représentées de manière intéressante et productive. On les stigmatise par exemple dans Fatal Attraction, où le personnage d'Alex, joué par Glenn Close, est totalement diabolisé, alors que le personnage de Jack Nicholson, dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, a un capital sympathie énorme.
En dehors des films d'horreur, qui représentent du coup ces problématiques de la grossesse de manière très déformée, dernièrement, la réalisatrice Diablo Cody a fait face à une petite polémique concernant son film Tully, qui est sorti en 2018. Dans ce film, Charlize Theron joue le rôle d'une femme enceinte qui est déjà mère deux fois et qui est complètement dépassée, pas du tout aidée par son mari qui est un ado attardé. Après son accouchement, elle engage une jeune babysitter de nuit, Tully, qui va changer son quotidien de manière radicale. Mais en fait, on comprend à la fin que Tully, c'est juste, spoiler alert, le fruit d'une hallucination qui est due à une très probable psychose puerpérale. Or, cette psychose n'est jamais nommée dans le film, et c'est bien ce qui va poser problème aux détractrices de Tully, qui ont elles-mêmes souffert de psychose puerpérale et qui auraient voulu que le film soit l'occasion de visibiliser davantage cet enjeu de santé, de le nommer, de le désigner.
Au bord de la folie, pas dans son état normal. La psychose puerpérale est un trouble dû à une dépression postnatale. Il concerne une à deux personnes sur mille. Ce trouble se traduit par les symptômes suivants. Des délires, des hallucinations, des troubles de la mémoire, des tendances suicidaires et des pulsions meurtrières.
On va finir ce panorama du duo maladie et femme par l'exemple des films de contagion et d'épidémie qui étaient édifiants comme genre phallocrate miso. Les femmes n'y sont pas montrées comme des victimes de la maladie, mais comme des propagatrices, des responsables de la contagion, et souvent c'est corrélé à des comportements que la société moralisatrice voit d'un mauvais œil. Sexualité débridée, adultère et tutti quanti. C'est le cas par exemple de Contagion de Soderbergh en 2011, dans lequel le personnage incarné par Gwyneth Paltrow est responsable de la propagation de l'épidémie parce qu'elle a eu une liaison hors mariage.
Sympa! C'est un peu le même délire dans 28 Days Later, 28 jours plus tard, de Danny Boyle en 2002. Là, l'origine de l'épidémie est attribuée aux actions d'une activiste qui œuvre et lutte pour le droit des animaux. En fait, elle est enragée et sa rage est punie par l'infection, ce qui apparaît dans le film comme un châtiment logique. Hein. De toute façon, on n'aime pas les meufs fâchées et en colère.
On dit hystérique, s'il te plaît.
Pardon, désolé. Résultat, un scientifique va jusqu'à dire qu'il faut la buter. On trouve cette idée aussi dans un film de Cronenberg, La Rage, en 1977, il y a eu un remake en 2019, dans lequel une femme qui est atteinte par l'épidémie développe un dard phallique, et la plupart de ses premières victimes sont alors des hommes. La fin n'est pas tendre du tout avec le personnage dont le cadavre est jeté dans un camion poubelle comme un déchet, sympatoche. On voit là que les femmes sont traitées comme un vaisseau de maladie, et en plus qu'elles sont vues diabolisées parce qu'elles savent ce qu'elles font, et elles le font quand même.
Comme des hommes.
Quand ça va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse.
Et pour les alternatives culturelles qui font du bien, qui transmettent des concepts sans prise de tête ou qui font de l'art un moyen de care et d'expression des minorités, voici sur Charbons Ardents notre sélection enflammée de ce mois-ci.
En termes de livres et de BD, on va commencer par vous suggérer la lecture de l'incroyable nouvelle de Charlotte Perkins Gilman, dont on avait déjà parlé pour Herland. Alors, elle a écrit une nouvelle qui a eu beaucoup de retentissement, qui s'appelle Le papier peint jaune. Dernièrement, il y a une magnifique édition qui est sortie où, en fait, il faut ouvrir les pages et c'est imprimé sur, justement, du papier peint jaune magnifique. Donc, c'est vraiment une expérience de lecture très intéressante. C'est une nouvelle qu'elle a écrite sur ce qui était très probablement une dépression postpartum dans son propre cas. Donc, il y a une inspiration autobiographique, mais elle n'a pas été bien diagnostiquée. Et donc, ça raconte l'histoire d'une femme de médecin qui vient d'accoucher et qui est emmenée dans une maison à la campagne pour se reposer. Et son mari médecin n'est pas vraiment à l'écoute. Lui, il veut juste qu'elle reste au lit et il l'enferme. Et elle est dans cette chambre où elle développe une fascination pour le papier peint jaune qu'elle trouve laid, puis ensuite très beau. Et ensuite, elle est petit à petit persuadée qu'il y a des femmes enfermées dedans. Et on y voit une belle représentation de cette psychose puerpérale dont on a parlé à plusieurs reprises au cours de l'émission et qui est vraiment source d'hallucinations extrêmement violentes. Donc vraiment une lecture accessible et qu'on vous recommande.
Merci Mareuil, ça me donne envie. On vous recommande également la lecture du roman Les sorcières de Pendle de Stacey Halls. C'est un roman historique basé au XVIIe siècle en Angleterre qui aborde les difficultés de l'enfantement puisqu'il s'agit d'une femme noble en fait qui n'arrive pas à enfanter et donc littéralement son rôle c'est ça, c'est d'apporter une progéniture à son mari. Donc c'est un gros problème pour elle et pour sa famille et elle va se trouver à rencontrer une guérisseuse, une sage-femme donc, qui connaît les plantes et les mystères du corps féminin et qu'on va bien évidemment accusé de sorcellerie, comme c'est étrange.
Comme c'est étrange, effectivement. Et ça, c'est une thématique qui est assez intéressante, ce couplage accusation de sorcellerie, figure de la sorcière, guérison et maladie. On en trouve un bel exemple aussi dans le magnifique roman de Maryse Condé, Moi, Tituba sorcière, où justement Tituba maîtrise l'art de la guérison. Donc c'est une esclave, Tituba, c'est une esclave qui a véritablement existé. On peut trouver des traces de son existence dans son témoignage forcé, son interrogatoire au procès des sorcières de Salem. Et donc à partir de cette figure-là, Maryse Condé, qui dit avoir vécu 2 ans avec Tituba et lui avoir parlé d'une certaine manière, retrace un peu son histoire, réinvente son histoire et lui redonne de la chair. Et en fait, donc Tituba, elle se rend compte avec son regard d'esclave que les femmes blanches qu'elle sert sont engoncées dans leurs vêtements, ne peuvent pas respirer, leur corps est invisibilisé notamment au niveau des règles, etc. Donc il y a tout un passage sur la libération de ces corps enfermés par la joie de Tituba en fait et sa manière d'être. Et donc c'est à la suite de ça que découlent les accusations de sorcellerie et les procès.
Et pour terminer sur la section lecture, on vous conseille également la BD Juste une endométriose de Fanny Robin parue en 2021. Un petit peu d'humour pour sensibiliser aux réalités quotidiennes de cette maladie, ça fait pas de mal aussi.
Et c'est très bien fait de se rendre compte à quel point ça vient s'investir dans absolument tous les détails et toutes les nuances de la vie d'une femme qui en est atteinte.
Millie, la tumeur est maligne.
Tu fais quoi à l'heure du déj?
T'as un souci?
Faut que je commence la chimio, genre, tout de suite.
C'est un truc localisé?
En plein dans mon corps, ouais.
Oh, fais chier.
Jess, je te présente Sam. Sam, voici Jess, ma très vieille copine. Il en a une grosse seringue.
J'ai l'air d'un mutant. Qui se souciera de moi? Moi.
Alors après les films de Contagion et les films de Vagin Adam, on vous propose justement des films qui vont quand même parler d'une maladie de femme qu'est le cancer du sein. Maladie moins invisibilisée que les autres qui a donné pas mal de films. Alors nous, celui qu'on vous recommande, c'est Ma meilleure amie, un film de 2015. Faire l'impasse sur un combo Toni Collette et Drew Barrymore, c'est non!
Et on va également vous conseiller un documentaire qui s'appelle Are Women the Future Sex? Ne serait-on pas le sexe fort?
Si.
Documentaire de Soumé Oram qui a été réalisé en 2021. Elle suit le docteur Ronx qui part du constat que plus d'hommes meurent du Covid que de femmes. Son enquête l'amène à se poser la question des autres maladies, cancer et sida inclus, ainsi que l'invisibilisation des données sur la manière dont les femmes sont traitées, invisibilisation dont nous avons parlé et qui mène à des mauvais diagnostics, voire au décès des patientes.
Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux.
Dans cette rubrique de Charbons Ardents sur Prune, on vous parle de mots qui font mal sans même nous demander notre avis, des mots enfermants, des mots censure, des mots pas beaux.
Pas beaux. Nos mots mal aimés du jour, sans aucune surprise, ceux qu'on voudrait proscrire et censurer comme on a osé censurer le si beau mot qu'est clitoris. C'est cette fameuse dénomination de sexe faible.
Dans Origine de la misogynie, Adeline Gargam et son co-auteur Bertrand Lançon en analysent les origines et la font remonter à l'Antiquité, aux petits potes Platon et Aristote.
Hey yo yo!
Pour ces deux bolos, les femmes sont des versions imparfaites, défectueuses et incomplètes de l'homme.
Sympa!
On retrouve là toute l'idée de la femme four à pain, étoile de mer et du sacro-saint sperme tout-puissant.
De la poésie pure.
Merci.
Un peu avant eux, Hippocrate nous sort un best-seller, Des maladies de femmes, c'est le titre, qui expose la théorie que le corps humain est dominé par des humeurs ou fluides corporels, que sont le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire. Alors dans ce bordel, il situe les femmes du côté froid et humide et les hommes du côté sec et chaud. Au deuxième siècle après Jésus, un cum baptisé Galien s'appuie là-dessus et va plus loin en sortant que les organes génitaux de la femme sont une inversion nulle de ceux des hommes. Citation Serge.
La femelle est plus imparfaite que le mâle par une première raison capitale, c'est qu'elle est plus froide. Dans l'espèce humaine, l'homme est plus parfait que la femme. La cause de cette supériorité est la surabondance du chaud. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant que la femelle soit d'autant plus inférieure que le mâle parce qu'elle est plus froide.
Merci, Sir David Attenborough. Bon, moi déjà, quand on traite de femelle, je débranche. Mais alors la logique de la surabondance de chaud, je suis fan. Ma bouillotte de règles et mon sèche-cheveux sont donc archi supérieurs à Zemmour, c'est prouvé par la science. Je sais enfin pour qui je vais voter.
Tous ces principes aristotéliciens et galieniques vont nourrir la médecine jusqu'au XVIIe siècle. Faisons un calcul rapide. Ça commence au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça finit au 17e siècle après Jésus-Christ. Ça nous fait donc plus de 2000 ans à supporter d'être traité en inférieur par les médecins sur le principe de l'humidité. Évidemment, cette infériorisation ne s'arrête pas là. L'appellation de sexe faible est symptomatique d'un système qui traite les femmes comme vulnérables, fragiles, mais fait également tout pour confirmer qu'elles le sont. Interdiction d'activité physique, vêtements contraignants, au premier rang desquels le corset, qui provoque des difficultés respiratoires et restreint les mouvements. Enfermement qui empêche de profiter des bienfaits du grand air.
Conséquence, les meufs sont pâles, maigres et promptes à l'évanouissement pendant des siècles. Donc difficile de les considérer comme fortes. Ça ne va commencer à changer qu'à partir de la Première Guerre mondiale, quand tous les mecs sont au front et qu'il faut bien utiliser une autre main-d'œuvre. Pour autant, toutes les meufs d'aujourd'hui ont déjà entendu l'étiquette de sexe faible et les stéréotypes et déni de traitement qui vont avec. À tout ça, je n'ai qu'une chose à dire. In the words of the great RuPaul. Charbons Ardents, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère aussi que le sexe faible, c'est terminé pour toujours.
Le mois prochain, on vous parlera de politique en cette merveilleuse période d'élection présidentielle. Si vous êtes engagé en politique ou dans le militantisme, mais avez l'impression de subir un plafond de verre et qu'on vous passe devant, si vous faites des études dans le champ sociopolitique et souhaitez témoigner de discours et attitudes de discrimination, si vous ne vous sentez pas représenté en tant que citoyen ou citoyenne sexisé, racisé, LGBTQIA+,
si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie d'en parler,
vous pouvez nous contacter, c'est facile, soit via notre Instagram Charbons Ardents, soit via la page de l'émission sur le site www.prune.net. On vous dit à bientôt.
Ciao.
Pour rester sur des Charbons Ardents, Retrouvez le podcast de l'émission sur www.prune.net.